Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au 21e siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Au mois de septembre 2022, j'ai été invité à un congrès sur les neurosciences notamment en éducation, qui a été organisé notamment par le groupe Babylou Family, où il y avait différents représentants et représentantes de l'éducation, des scientifiques, des docteurs, des personnes, des pédagogues, mais aussi des personnes issues de l'UNESCO. J'ai eu le plaisir et la chance d'ailleurs de rencontrer ce jour-là le directeur éducation de l'UNESCO, avec qui j'ai eu des discussions passionnantes sur l'instruction et sur comment ça s'articule en France et sur une vision très, très franco-française, encore une fois, du sujet qui est un petit peu dommage, mais bon, sur lequel on avance. Et j'espère qu'on pourra s'inspirer de ces personnes qui voient aussi une certaine globalité à travers le monde et qui peuvent amener des choses très intéressantes, si tant est que la France arrive à abandonner un certain chauvinisme et à écouter ce qui se passe ailleurs. Et pendant ce congrès, j'ai aussi rencontré une personne qui s'appelle Xavier Ouvrard. C'est le PDG, en fait, de Babylou Family. Alors, vous pouvez vous dire, oui, Cédric, t'arrives avec un PDG qui va parler. Ça doit être un épisode qui a été acheté, un épisode qu'on appelle co-brandé. Eh bien, pas du tout. Ça aurait pu, pourquoi pas, mais c'est pas le cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vois cet homme qui prend la parole à un moment pendant le congrès et qui est habité. Il est vraiment habité par ce qu'il dit. Je suis en phase avec son propos et il est habité par ce qu'il dit. Et croyez-moi, des PDG, des patrons, des directeurs, j'en ai vu quelques-uns au cours de ma carrière professionnelle, que ce soit des gens avec qui j'ai travaillé, des gens que j'ai rencontrés, mais aussi des gens que j'ai eu en conférence, que j'ai eu en formation, que j'ai eu en congrès aussi, ou en convention. Et là, il y avait vraiment ce côté où j'incarne ce que je dis, je peux l'incarner, parce qu'en fait, j'y crois, et j'y crois dur comme fer. Et c'est ce qu'a proposé en fait mon invité du jour, Xavier Ouvrard. Et vraiment, je me suis dit, j'ai envie de l'avoir dans le podcast, donc voilà, il va nous raconter un petit peu... comment est-ce qu'il vit ces changements dans l'éducation, alors certes au travers de son entreprise, mais on va aussi aller chercher l'homme, on va aller se parler de qui est Xavier Ouvrard en tant que père, en tant qu'homme, qu'est-ce que ces paternités lui ont amené comme réflexion et comment est-ce que ça peut se transmettre ensuite dans les valeurs qu'il peut envoyer, injecter, diffuser dans l'entreprise dont il s'occupe. Je vais commencer tout de suite par ma première question et je vais le laisser d'ailleurs se présenter. Alors Xavier, comment est-ce que toi tu te présentes ? Je vous souhaite une très bonne écoute.
Aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est d'être le représentant d'une communauté de professionnels passionnés par la révolution éducative de la petite enfance. On est en train de vivre un truc de dingue, c'est quelque chose qui se passe une fois dans une vie. C'est que la science est en train de montrer que l'éducation de 0 à 6 ans est la clé absolue de l'éducation générale. Certains pédagogues en avaient l'intuition, mais ce qu'on vit en ce moment est incroyable. Et donc moi, je suis un activiste de la petite enfance.
Et comment t'en es venu, toi, à t'intéresser à ces sujets-là ? Quand on était au congrès, on m'a raconté des histoires, on m'a dit « Tu sais, Xavier, il est vraiment habité par le sujet, il est engagé dans sa paternité depuis très jeune, apparemment tu es devenu papa assez jeune aussi. Ouais. » Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours déjà ? Est-ce que tu savais que t'allais être papa dans ta vie ? Est-ce que c'était quelque chose que... Est-ce que c'était une évidence
pour
toi ?
Oui, pour moi c'était une évidence, c'était très fort. Je voulais être papa très jeune. J'ai eu la chance de rencontrer une femme incroyable qui est toujours ma femme aujourd'hui et... Quand on était très jeunes, tous les deux, on s'est dit on veut avoir des enfants jeunes. Alors c'est un peu original, mais moi j'ai eu un enfant quand j'étais étudiant. Donc j'ai une fille qui a 27 ans, je suis allé chercher mon diplôme d'étudiant avec une poussette. Et donc ma vie de papa a commencé étudiant. J'ai eu ensuite 3 autres enfants, donc on a 4 enfants qui ont entre 17 et 27 ans, 4 filles. Et c'est vrai que les voir, partager leur vie, les voir grandir et puis créer entre elles aussi une fratrie, leur sensibilité à tout ce qui pouvait se passer, absorber, a été génial et j'ai la chance d'avoir un peu 2 générations parmi mes enfants, même s'ils n'ont que 10 ans d'écart. Ceux qui sont nés avant l'iPhone et donc qui ont démarré une adolescence sans smartphone, ceux qui sont nés après, avec tout ce qui se passe comme intensité de messages, etc. Donc ça m'a passionné de voir ça. Ensuite, ma femme a fait aussi un choix professionnel majeur il y a une dizaine d'années. Elle a décidé de devenir institutrice, professeure des écoles dans les quartiers. Et je dirais que tous les deux, en parallèle, en fait, cette dimension de l'éducation à laquelle on était très attachés est venue remplir nos vies à 100% professionnelles et personnelles.
Quand ça t'est venu l'idée, je reviens un petit peu à toi qui deviens papa il y a 27 ans, parce que c'était pas trop la norme quand même d'aller à son examen avec la poussette. Comment t'as pris ces décisions et comment t'as vécu ces moments-là ?
Je pense que j'ai été marqué dans mon enfance par l'envie d'être papa jeune, d'être super dispo, d'être complice, d'avoir du temps. Peut-être aussi que je me suis dit à ce moment-là que du coup, quand j'aurai 50 ans, j'aurai une deuxième adolescence et que mes enfants vivront leur vie et que j'aurai une deuxième jeunesse. Il y avait vraiment cette envie d'une famille nombreuse, jeune, d'être au milieu du bordel aussi. C'était quand même très stimulant. D'ailleurs, c'est cette espèce de créativité permanente autour de soi. Donc, je crois que ça, c'était vraiment le cœur. Et puis, je suis passionné d'éducation, de transmission. Des profs ont changé ma vie. J'adorais apprendre. Donc, je pense que tout ça m'amener vraiment dans cette direction. C'est clair que quand j'étais père très jeune, je me suis pris beaucoup d'a priori, du genre « mais tu dois être très religieux, mais qu'est-ce qu'il est conservateur et classique, etc. » Alors que pas du tout, c'était plutôt l'inverse. Quand on a décidé d'avoir des enfants jeunes, on était plutôt en rupture. En tout cas, dans ma famille, il y avait des vrais questionnements sur le sujet, etc. Voilà, mais finalement, c'est passé assez vite quand les gens te voient avec tes mômes et que ça se passe bien et qu'il y a une belle entente. Tous ces sujets-là se mettent de côté.
Mais je veux pas le rapport avec le religieux, en fait.
C'est les gens qui ont des enfants jeunes, forcément, ils sont classiques, ils sont ou hyper catho ou hyper musulmans, etc. Okay. Et ils sont contre la contraception, c'est pour ça qu'ils ont eu des enfants jeunes, ou ils veulent se reproduire pour porter la bonne parole. Donc il y a ce genre de cliché qui était un peu véhiculé à l'époque. Moi, je pense que c'est moins le cas maintenant, mais voilà.
Et dans ton rôle de père, tu vois, de père du mal, du chef de famille, t'as pas été interpellé par les gens sur le fait que justement, enfin, tu viens quand même à ta remise de diplôme avec ton enfant en poussette.
Si, ouais, je pense que les gens étaient touchés parce que il y avait l'annonce de la naissance de ma fille. Le secrétaire de l'école qui j'avais filé un faire-part l'avait mis dans le hall de l'école et. Et donc, il y a eu pas mal de gens qui sont venus me questionner, parfois avec des a priori, etc. Puis quand ils ont vu ma femme, qui était très cool, notre amour pour ce petit bébé, il y a plutôt eu un enthousiaste autour de ça. C'était plutôt un bon moment, finalement.
Toi, quand ton enfant est né, alors bon, t'étais étudiant, tu sais, il n'y a pas encore le congé paternité, du coup.
Non.
Eh oui. Par contre, tu l'as connu pour le dernier, alors.
Je l'ai connu pour la dernière, mais c'était que 11 jours.
Ah, oui, c'est vrai. En humilité.
Ouais, mais pour ma fille aînée, en fait... Enfin, c'était complètement clair pour Chloé, ma femme, et pour moi que c'était une paternité partagée. Donc, chez nous, il n'y a pas de chef de famille au sens qu'il n'y en a pas un. On est tous les deux sur le sujet. J'avais la chance de pouvoir avoir une certaine forme de disponibilité parce que j'étais à la fin de mes études et ça se passait plutôt pas mal. Donc, j'avais quand même un peu de temps. Et donc, j'ai pu vraiment, pour ce premier enfant, avoir un investissement fort. J'ai pris 3 mois de vacances à ce moment-là avant de commencer mon premier job. Et donc, j'ai vraiment vécu de manière très intense tout ça. Je me suis beaucoup levé la nuit pour la changer. Ma femme allaitait, elle dormait avec nous dans notre lit. Enfin, plein de choses qui sont des expériences très sensorielles. Et il se trouve qu'une partie de ma famille est philippine et qu'il y a un mot en philippin qui n'existe pas en français, qui est le mot gigil. Donc, gigil, c'est un peu, tu sais, quand tu as envie de manger littéralement un enfant, tu as physiquement cette sensation d'avoir envie de l'embrasser, de le toucher, etc. Et j'ai découvert que j'étais gigil. Il y avait un truc physique avec la relation jeune enfant qui est magnifique, très très chouette, ce que ça t'apporte toi comme enchantement dans ta vie en fait. Donc ça c'était quelque chose de chouette et qui m'habite depuis. Ouais.
Ça me parle beaucoup l'idée des 3 mois. Moi j'ai pris 3 mois de congé parental et ça a clairement été la meilleure décision de ma vie pour la rencontre avec ma fille. Après derrière tu commences à travailler.
Oui, j'ai commencé à travailler. Donc, on est parti habiter en Amérique latine. Mmh. Je suis parti coopérant à l'époque avec le service militaire. Pendant cette coopération où je m'ennuyais beaucoup dans mon travail, j'ai eu l'idée de créer une entreprise de vente de produits pour bébés grâce à ma fille. Parce qu'on m'arrêtait dans la rue pour me demander où j'avais acheté sa poussette qui était très chouette, qui était française. Et donc, ça m'a donné l'idée de créer une entreprise de vente de produits pour enfants. J'ai importé des produits de France. Et puis, on a commencé à vendre ces produits dans les magasins de puériculture. Ça s'est bien passé en Argentine, au Brésil, dans plusieurs pays. Et tout ça, ça crée un lien. C'est-à-dire que cet événement, finalement, de paternité précoce a créé ça par hasard. Et quelque part, je pense que quand tu es jeune parent, c'est des moments... D'ailleurs, les gens qui sont jeunes parents arrivent, te parlent que de leur enfant, du projet éducatif, etc. Tu as une sensibilité particulière à ce sujet. Et moi, ça a une résonance professionnelle. Ça a été vraiment génial pour moi. Ensuite, après ça, on a décidé de rentrer d'Amérique latine pour que je crée une entreprise dans la vente d'instruments de musique. Et à cette époque-là, très vite, je me suis rendu compte, en regardant mes propres enfants, que l'enseignement de la musique en France me gênait. Il était très conventionnel, on commençait par le solfège, etc. Et j'y croyais pas. Donc j'ai créé, en parallèle de ces magasins, des écoles de musique. Et ça a été majeur parce que, avec une pédagogie nouvelle, en travaillant avec d'ailleurs aussi un fabricant d'instruments de musique, je me suis rendu compte qu'on pouvait lutter contre des a priori. Par exemple, un Français spontanément va te dire « j'ai pas l'oreille », ce qui veut rien dire, il n'y a qu'une personne sur 3000 qui a l'oreille absolue, ou « je ne suis pas doué », ou « j'aimerais beaucoup jouer de la musique », etc. Mais prends confiance, prends un instrument dans ta main, joue à plusieurs et surtout chante. Ça, c'est vraiment quelque chose d'empirique. J'ai constaté à cette époque-là que quelqu'un qui chantait en plus de jouer d'un instrument, développait une passion pour la musique, pouvait la véhiculer autour de soi, et que si en plus il jouait avec d'autres musiciens, il allait rester toute sa vie musicien. Les gens qui apprennent le solfège jouent tout seuls, sauf si ils sont très disciplinés, la plupart abandonnent. Et ça m'a donné vraiment une certitude qui est ancrée en moi, c'est que la pédagogie est la clé du plaisir et du bien-être et de l'accomplissement en fait de ce qu'on veut vraiment être. Dans notre pays, on a eu un pédagogue extraordinaire qui est Célestin Freiné, que peu de gens connaissent, qui a révolutionné le monde de l'éducation dans les années 20. Il est rentré gazé de la Première Guerre mondiale. Il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas crier sur les élèves, il était obligé de passer entre les rangs, il a dû façonner sa classe autrement. Et il a créé une adhésion à l'école, à l'époque, dans l'arrière-pays niçois, dans une région très rurale, à travers ce qu'il appelait le tâtonnement expérimental, c'est-à-dire la capacité à créer du contenu scolaire par l'expérience réelle des familles. Typiquement, un cultivateur d'olives, ben, on allait créer un texte à partir de ça pour que ça parle aux enfants. Et ça a généré dans cette région, je dirais finalement, un appel pour l'éducation qui n'existait pas. Et donc ça a été un peu mon deuxième choc, c'est que ma femme a été élevée en pédagogie freinée. On a mis nos enfants en pédagogie freinée quand on est rentré en France. Et le choc professionnel que j'ai vécu à travers la musique est de voir que mes enfants rentraient dans l'éducation grâce à la pédagogie freinée, qui était presque inconnue, mais qui est dans l'éducation nationale publique, avait un tel impact, ça m'a amené à réaliser qu'il y avait un champ considérable là-dessus. J'ajouterais, c'est mon dernier point, que le fait d'avoir vécu au milieu des professionnels de crèche, avec dans mon entourage des enseignants, je me suis rendu compte que les gens ne savent pas que c'est un métier extrêmement physique, qui demande beaucoup, beaucoup de concentration aussi, donc à porter les enfants quand on est en crèche, mais même un enseignant. En fait, un enseignant, il ronde vidé le soir, parce que c'est un métier où tu dois être concentré, ne rien rater, etc. Mais on a tendance à penser que c'est des métiers cool en général, et c'est faux. Donc, beaucoup de respect pour tout ça, et ça m'a amené à cette passion de l'éducation.
Je t'écoute parler. Non, mais je trouve ça très intéressant. Quand vous rentrez en France, là, il y a combien d'enfants qui sont là ?
On en avait deux.
Il y en avait deux, donc deux de plus.
Deux de plus, voilà, qu'on a eu en France après. Donc, ma dernière fille en terminale, elle s'appelle Anouk.
Ok. Salut Anouk, si tu écoutes ton père à un moment. Là, quand tu rentres en France, tu as pu prendre un congé paternité pour la dernière.
J'ai pu prendre 11 jours pour la dernière. En fait, pour la troisième, c'était le début du congé de paternité. Et en fait, j'avais pris, je ne sais plus si c'était déjà les 11 jours ou une semaine, mais j'ai passé ma semaine à bricoler pour avancer des projets dans la nouvelle maison qu'on venait d'acheter. Et en fait, ma femme a vraiment trouvé que j'avais exagéré, ce en quoi elle avait raison, parce que je n'avais pas mis mon temps à disposition de l'arrivée de mon enfant, mais plus du projet familial qui était cette maison. Contrairement à ce que j'avais pu faire pour les précédentes, donc je me suis rattrapé après, on est parti voyager avec ma fille et on a pu créer beaucoup de belles choses. Mais c'est vrai que ce moment-là m'a aussi remis l'église au milieu du village. Et donc pour Anouk, pour le coup, j'ai vraiment pu prendre du temps aussi. Et puis on a décidé il y a 5 ans avec les deux dernières, parce que j'avais eu quand même moins de temps, parce que j'étais chef d'entreprise de manière très intense avec les deux dernières, parce que j'avais moins été au début de ma vie professionnelle avec les deux aînés, de partir 6 mois en voyage. Donc on a voyagé 6 mois. À travers toute l'Amérique du Sud, en dormant chez l'habitant ou dans des petits Airbnb, de façon en prenant des transports collectifs ou en ayant une vie assez, assez simple, et en prenant du temps, et c'était très chouette.
Je trouve ça génial. J'aime beaucoup ce que tu nous racontes là sur l'arrivée de ta troisième enfant, et ce côté un petit peu presque, tu vois, cliché, stéréotype du daron qui prend son congé paternité, mais pour faire un truc, tu vois, pour bricoler, pour... Et ouais. Il y a aussi cette capacité à se remettre en question, quand même.
Oui, mais je pense que cette capacité à se remettre en question, elle vient souvent d'un tiers. Bon, en l'occurrence, c'était ma femme qui m'a un peu secoué.
Elle vient souvent des mères, quand même.
Elle a eu raison. Je pense que réciproquement, ça, sur l'éducation, c'est quand même très souvent la maman qui va donner ce point d'alerte. Et donc, la réciproque est un peu moins vraie. Ce que je constate quand même dans ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'allongement du congé paternité en France, Le fait qu'on ait aussi des exemples qu'on voit de beaucoup plus près en Europe du Nord, ce qui peut se passer sur le fait qu'on ait des congés totalement partagés entre le père et la mère, etc., génère une différence dans l'approche de la paternité qui est assez géniale. Je vois aussi d'ailleurs, là j'ai deux exemples dans l'entreprise, de jeunes papas d'ici quelques semaines. On a deux collaborateurs super engagés qui vont avoir un enfant dans les 15 jours, qui ont dit bah, « en fait, on a 2 mois de congé paternité ». Je vais en prendre 15 jours à la naissance, mais en revanche, je vais me prendre un vrai temps dans 2-3 mois, au meilleur moment pour moi. Il y a une gestion, un échange dans le couple, je trouve très, très mature sur ces sujets. Et du coup, l'employeur est dans une situation où il y a de la conviction, il y a de l'échange et on peut vraiment, vraiment caler ça de façon claire.
Oui, puis c'est très pertinent de prendre une partie du congé à la reprise du travail de la mère, par exemple. Il y a une vraie montée en autonomie, en compétence du père. Tu racontais tout à l'heure que sur tes premiers enfants, et peut-être sur les deux suivants, il y avait du cododo, de l'allaitement, il y avait visiblement beaucoup de comportements proximaux avec l'enfant. C'est quelque chose qui était familial, c'est quelque chose que, parce qu'il y a 27 ans, on n'avait pas les débats qu'on a,
non,
aujourd'hui
non,
sur
vrai.
Ces sujets-là. Comment ça vous est venu ?
Alors ma femme avait ça, sa propre maman, qui est quelqu'un d'incroyable, de très en avance sur son temps. La mère de ma femme est prof de yoga et elle avait amené ses enfants dans la pédagogie freinée, dans toutes ses approches, et aussi très en avance sur la nutrition. Et donc je pense qu'il y avait quelque chose d'intrinsèque. Et moi, j'avais été élevé de manière un peu différente, mais en revanche, avec des parents qui m'avaient laissé un esprit ouvert. Donc on a très vite discuté de ça et pour nous, c'était clair. Donc Chloé, ma femme, a allaité mes 4 filles. Entre 9 et 11 mois, hein, suivant les 4 enfants. Et c'est vrai que quand même très souvent, la nuit, on partageait les tâches, on avait l'enfant dans notre lit. Et oui, cette proximité physique, je pense, a été déterminante pour nous. Je pense qu'un petit bébé contre soi, c'est quand même quelque chose d'assez unique dans une vie. La réalité vécue m'a permis de me rendre compte dans mon métier aujourd'hui à quel point le contact physique entre les professionnels de crèche et les enfants est déterminant. Le fait de devoir les porter pouvait être pris comme une contrainte. Donc, quelle position met Vincent, notre directeur général France, les équipes chez Babylou qui sont en charge de l'éducation, ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la position phare du collaborateur, de la professionnelle de crèche dans une ce qu'on appelle une section. Autrement dit, être assis par terre, avoir une visibilité sur les enfants, mais pouvoir donc avoir des enfants sur soi et en proximité sans avoir mal au dos, enfin le moins possible, et pouvoir véhiculer cette attache. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps à prendre les enfants contre soi, mais s'ils en ont besoin, savoir le ressentir, etc. Nous sommes des petits mammifères. Si on est sans savoir marcher, contrairement à un cheval qui naît en marchant, c'est que en fait, notre développement cérébral et émotionnel est moins abouti que d'autres mammifères. Parce que la grossesse, par rapport à notre temps de vie, est très courte. Donc tout ce qui se passe sur les premiers mois de la vie et les premières années est absolument déterminant pour ce sujet-là. Et dans la confiance en soi, qui est le premier pilier éducatif chez Babylou, on en a 3. Avoir confiance en soi, apprendre à chaque instant et prendre sa place dans le monde. Sur ce premier pilier qu'est la confiance en soi, ce lien physique avec le parent ou le professionnel de crèche qui va s'occuper de toi, etc., est vraiment déterminant pour sentir cette attache.
Oui, complètement. Tu viens de résumer un petit peu la vision de la théorie de l'attachement avec même les figures d'attachement secondaire que peuvent être le personnel de crèche, totalement. Mmh. Tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les neurosciences, dont tu nous parleras dans un petit bonus, mais tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les neurosciences, tout ça, il n'y avait pas l'accès à tout ça quand tu es devenu papa. Il n'y a pas non plus forcément de sujet sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation positive. Alors, en toute transparence, tu as 4 enfants, ça n'a pas dû être calme tous les jours, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Comment vous êtes sortis vis-à-vis de ces approches de non-violence éducative ?
Il y a un truc qui s'est passé dans ma vie, c'est que on m'a offert un bouquin de Françoise Dolto, ses chroniques sur France Inter, quand Chloé, ma femme, était enceinte de notre première fille. Et en lisant ce livre, il y a eu un truc déterminant, c'est pas d'humiliation de l'enfant en public. Et ce truc-là était un énorme tilt dans ma tête, c'est-à-dire je me suis rendu compte en la lisant, ce n'est pas du tout quelque chose qui était intrinsèque chez moi, qu'on ne devait pas gronder fortement un enfant devant des tiers, ou le reprendre de manière, on va dire, trop cadrée, parce que ça pouvait l'humilier sur ce que les autres ressentaient par rapport à ton message. D'ailleurs, même entre les parents, parfois. Du coup, et quand j'ai eu plusieurs enfants aussi, j'ai toujours veillé à ce que, s'il y avait un sujet de cadrage éducatif, je prenne mon enfant à part, je l'amène dans une pièce à part, en général, c'était ma chambre, pour enclencher une conversation à deux. Et tu ne te cries pas dessus dans ces cas-là. C'est beaucoup plus apaisé, parce que toi, ton propre rôle et de père vis-à-vis de l'assemblée n'existe plus. C'est dans ta relation à l'enfant.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Et je pense que ça a été une recette déterminante, donc merci Françoise Dolto. Ensuite, l'autre sujet, c'est que je pense qu'on a été extrêmement vigilants sur la relation entre les enfants et que ça nous a permis, nous, de nous réguler. C'est-à-dire que dès qu'on a vu des petits actes un petit peu de jalousie ou de malveillance, on a tout de suite été dans l'explication. Alors attention, on n'est pas forcément dans l'explication niaise, à 2 km/h, en expliquant aux enfants... voilà, que ben, tu comprends, il s'est passé ceci. Il ne faut pas prendre les enfants pour des êtres sous-développés. C'est des personnes humaines qui ont déjà une capacité de compréhension assez forte. Mais en revanche, il faut verbaliser. Mmh. Et ça, chez Babylou, c'est quelque chose de déterminant aujourd'hui. Typiquement, quand tu donnes à un enfant à manger, il y a quelque chose de fantastique dans la culture française. C'est ce qu'on appelle le cadre. Et c'est unique au monde. C'est-à-dire que dans la façon d'élever les jeunes enfants, on donne un cadre. Typiquement, tu dois goûter de tout. Si tu n'aimes pas, c'est pas grave, mais tu dois goûter. Et en fait, le cadre qu'on donne, si on le respecte, c'est une recette d'apaisement dans l'éducation. Et nous, le cadre entre les enfants, ben, on l'a défini. Et quand ça déraillait, ben, on les reprenait, encore une fois, individuellement. Mais ça a plutôt vraiment bien marché. Et je trouve qu'en tout cas, dans ma famille, aujourd'hui, je vois une singularité de la fratrie par elle-même qui s'autorégule sans les parents, qui a bien marché. Mais cette notion de cadre, elle est vraiment clé. Et je remarque d'ailleurs... au global, que dans l'éducation, quand le cadre est bien délimité, bien respecté, ça se passe beaucoup mieux dans la relation d'autorité aussi.
Oui, et on en parlait avec la docteure Héloïse Junier, psychologue, docteur en psychologie de développement, dans un autre épisode qui indiquait aussi que le cadre, il faut aussi qu'il soit clair, précis, mais aussi dans une certaine flexibilité, c'est-à-dire que dans certaines situations, bah, le cadre, on va peut-être... lui donner une certaine souplesse, tu vois. Peut-être qu'on va.
Exactement.
Peut-être qu'on va. D'habitude, à la maison, on goûte tout, mais là, ben, on est en sortie au restaurant, on va pas goûter forcément ce qu'il y a, on va prendre ce que l'enfant aime spécifiquement. Voilà, il y a une certaine souplesse à accorder par rapport à la situation à l'instant T. Et je te remercie du partage de ces astuces qui sont déterminantes. Tu as évoqué, du coup, en tout début d'épisode, quelque chose qui m'intéresse particulièrement. C'est le fait d'avoir eu 2 générations d'adolescentes qui n'ont une avec smartphone, une sans smartphone. Qu'est-ce que ça change ?
Ça change énormément de choses. Moi, je suis très, très préoccupé par l'impact des écrans. J'ai beaucoup discuté avec une grande psychologue française qui s'appelle Isabelle Filioza, qui est un peu une référence dans notre métier, qui travaille beaucoup sur ce sujet avec des grands scientifiques comme Catherine Vernet, comme Guylaine Dehaene, etc. Enfin, en France, on a des gens très, très en pointe sur ces sujets. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le niveau de connexion cérébrale d'un enfant de 10 ans en 2023... correspond globalement à celui d'un enfant de 8 ans en 2013. On a perdu 2 ans de connexion cérébrale pour 3 sujets. Le premier, c'est l'exposition aux écrans. Le deuxième, c'est la pollution. Et le troisième, c'est la médiocrité de l'alimentation. On en parle peu. Les études commencent à sortir. Il y a une étude passionnante qui est sortie aux États-Unis il y a quelques semaines sur l'impact de la pollution. Mais sur les écrans, la réalité, c'est que tu as le truchement de l'écran qui vient te perturber dans la relation humaine. Mais ce qu'il faudrait investir pour inverser la tendance en termes de masse salariale, de subventions pour les établissements de petite enfance, pour la formation des professionnels à domicile, pour beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées à ça, n'est pas encore fléché parce que c'est un arbitrage de fonds publics qui va nécessiter un peu de temps, malheureusement un peu trop. Ça viendra, moi, je sais que ça viendra, mais peut-être un peu tard. Alors sur les écrans, en gros, ce qu'on peut dire, c'est il y a ce que les enfants vivent à travers les écrans, notamment tout ce travail des producteurs de contenu qui font qu'ils sont récompensés s'ils avancent. Ça change complètement leur rapport à l'autre, etc. Et il y a aussi le rapport avec les parents, où finalement les parents eux-mêmes ont des écrans. Et quand je dis que mes 2 dernières filles ont eu des écrans, moi aussi j'en ai.
Et, oui.
Et par exemple, moi je suis un gros lecteur du monde sur mon smartphone. Mais ma dernière fille, presque toutes les semaines, elle prend mon téléphone pour regarder combien d'heures j'ai lu le monde et elle rigole. Mais ça veut aussi dire que de temps en temps, je deviens un peu addict, je vais lire ça, je l'écoute à moitié quand elle me parle. Et donc plusieurs fois, mes 2 dernières filles qui ont été élevés de manière fine là-dessus en pédagogie freinée, m'ont dit « Mais papa, est-ce qu'on peut t'envoyer ce qu'on appelle un message clair ? Grosso modo, pose ton téléphone. Voilà ce que nous on a à dire et sois concentré sur ce qu'on te dit. » Parce qu'elles ont constaté que je répétais souvent la dernière phrase qu'elles avaient dite quand elles m'interrogeaient. Et en réalité, ma propre capacité de concentration sur ce qu'elles disent est différente de ce qui se passait pour leur sœur aînée. Parce qu'il y a ce phénomène-là. Donc je le vois à titre personnel et je vois ce que ça donne dans les familles qui n'ont pas ce niveau de culture. De l'écran qui n'a rien à voir avec la culture tout court. Mmh. Donc aujourd'hui, moi, mon grand combat, donc on va prendre la parole dans les médias cette année pour ça, c'est de créer un droit opposable à la formation des parents sur le développement du cerveau de l'enfant et de sa motricité. Mais d'abord du cerveau de l'enfant. On ne peut pas blâmer les gens qui ne savent rien, qui ne sont pas formés sur ce qu'ils véhiculent comme comportement, qui ont un impact catastrophique sur le développement du cerveau de leurs enfants. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe in utero, ils ne savent pas ce qui se passe dans les premières années, et en particulier la première année tout court, sur la verbalisation, tous les aspects de motricité de base. Par exemple, quand tu donnes à boire à ton enfant, si tu lui dis « je te donne un demi-verre d'eau », ça a un impact considérable dans ses connexions cérébrales. Parce qu'il associe le contenu au contenant, le volume rentre dans son cerveau, c'est ce qu'on appelle des proto-mathématiques. Si tu lui donnes le verre d'eau sans rien dire parce que tu es sur ton téléphone, il ne se passe pas la même chose. Tout le monde boit de l'eau, riche ou pauvre. Et en fait, ça, c'est clé. Autre phénomène qu'on observe aussi sur la motricité, on voit de plus en plus de parents laisser leurs enfants dans ce qu'on appelle les coques, les maxi-cosy, les poussettes, jusqu'à 10-12 mois, soi-disant parce qu'ils sont conformes et parce qu'eux-mêmes sont dans leur série, leur truc, etc. Ça a des conséquences catastrophiques sur la motricité. Les enfants marchent beaucoup plus tard. Pourquoi ? Parce que, en fait, la torsion du corps qu'on va avoir quand on est allongé par terre ou quand on est assis dans son parc, des phénomènes déterminants pour l'équilibre n'ont pas lieu. Et ensuite, on doit appeler des psychomotriciens pendant des mois pour corriger ça et que l'enfant marche. Quand tu marches à 18 mois, parce que naturellement, ton corps faisait que c'était plus long, c'est pas grave. Mais quand tu marches à 23, 24 mois parce que on t'a stocké, entre guillemets, dans un maxi-cosy pendant des mois quand tu étais petit, ça a des répercussions majeures sur plein de choses, sur ta latéralisation et plus tard sur la façon dont tu vas entrer dans l'activité physique, voire dans certains cas dans l'écriture. Et tout ça, c'est des éléments que nous, en fait, on peut factualiser. Et maintenant, on a des scientifiques de renom, et c'est ça qui est génial en France, qui nous apportent le contenu. Je crois qu'il y a deux trucs sur lesquels on peut être très, très fiers d'être français. Pour moi, le premier sujet, c'est la culture. C'est unique au monde, cet accès à la culture qu'on a. Moi, il n'y a pas une semaine où je me dis, mais quelle chance de pouvoir avoir ce cinéma-là, cette littérature-là, etc. Et ça, ça crée un environnement pour l'éducation qui est fantastique et unique. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité quand même naturelle chez la plupart des Français à ça. Il faut garder ça, parce que sinon on va se faire formater. Et le deuxième sujet, c'est la richesse de la recherche scientifique. Et en France, malgré un traitement, un positionnement des chercheurs qui est, à mon avis, honteux, si je dis le fond de ce que je pense, et en rémunération et en moyens pour développer la recherche, ben, on a des gens incroyables qui continuent à se mobiliser. Et je crois que c'est un gros combat qu'on doit mener, en tout cas dans les sciences de l'éducation et dans les neurosciences, nous, les entreprises, d'aller interpeller l'État en leur disant qu'on va prendre notre part. Ça ne suffit pas de dire « c'est honteux, il n'y a pas assez d'argent public ». On n'a pas beaucoup d'argent public. Donc appelons l'État, ce qu'il en mette plus là où il y en a, mais prenons-nous notre part. C'est ce qu'on fait, nous, à travers la fondation qui a été créée chez Babylou, qui va aller financer des programmes de recherche, etc. Je ne crois pas que l'entreprise puisse s'exonérer de prendre sa part sur ces sujets.
Oui, complètement. Je trouve que tu as tout à fait raison. Et je pense que c'est important aujourd'hui, de toute façon, où il y a quand même un certain mélange aussi par endroit du privé et du public, que le privé prenne en effet toute sa part sur des sujets aussi importants. Juste sur les écrans, tu parlais, je voulais partager quelque chose, c'est que tu parlais justement de cette de relation qui est un petit peu parfois perturbée avec la présence de l'écran tenue par l'adulte. C'est vrai que la docteure Alice Duganda nous disait dans ce podcast que ça s'appelle la technoférence. Mmh. Et c'est marrant parce que ça se représente aussi chez les adultes. Et là, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent vont peut-être se dire « Ah oui, tiens, dis donc, c'est combien de fois est-ce qu'on se retrouve deux adultes sur un canapé ?» Chacun sur son téléphone ou dans le lit.
Exactement, mais même au resto maintenant.
Même au resto.
Tu vas au resto, tu vois des écrans et les gens se mettent l'un à côté de l'autre et regardent l'écran plutôt que de se parler l'un en face de l'autre. Non, cette technoférence, c'est quelque chose d'extrêmement perturbant. Moi, j'ai un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la contemplation. J'ai repris ce mot-là et j'ai essayé de conceptualiser cette approche en parlant avec des psychologues et des neuroscientifiques. Et ce qu'il en ressort, chez moi, c'était intuitif de ce que j'observais dans nos établissements et chez les enfants que je regarde toujours attentivement dans l'espace public, c'est qu'il n'y a plus de contemplation. On a beaucoup moins qu'avant. Et en fait, quand tu discutes avec un scientifique, il va te dire, mais en fait, c'est fondamental. Avoir des moments où tu n'es pas devant un écran, mais tu regardes. Moi, j'habite à Marseille. C'est incroyable. On a la mer en face de chez soi. Mais combien de fois dans l'année on se met tout simplement face à ce spectacle juste pour le regarder et se dire qu'est-ce qui se passe? Et en fait, dans la tête d'un enfant, il se passe mille choses. Du rêve, de la créativité, il part ailleurs, etc. J'ai beaucoup aimé une interview de Florence Foresti que j'adore. On lui dit, mais vous avez pu épuiser votre créativité. Il dit, mais moi, j'étais en phonique, je m'emmerdais. Je m'emmerdais, j'étais dans ma chambre. Bah, du coup, je pensais, je réfléchissais, je m'inventais des mondes. Et ça donne Florence Foresti, une des nanas les plus marrantes que la France connaisse. Et oui, c'est vertueux parfois de s'emmerder, c'est vertueux de contempler. Et en fait, cette espèce d'addiction à l'écran supprime ces moments-là. J'étais il y a quelques jours avec des jeunes enfants et l'un d'entre eux, au milieu de d'autres enfants, disait « Ah, je m'ennuie parce qu'il voulait son écran ». Et quelque part, c'est quelque chose qui est quand même vraiment super important de se dire qu'il faut apprendre aux enfants, réapprendre, à, entre guillemets, accepter l'ennui ou en tout cas ce qui peut se déclencher quand tu ne fais que contempler.
Il y a ça, ouais, tout à fait, la contemplation. Il y a aussi le fait que, même sans parler d'écran, on constate quand même chez les parents une certaine pression, plus sur les mères bien sûr, mais est-ce que l'enfant fasse des activités ? Il faut qu'il fasse des activités. Or, l'enfant se débrouille très bien tout seul généralement pour jouer. Et après, c'est vrai qu'il y a des endroits où on peut mener d'autres réflexions. Je sais pas si tu sais, mais moi ma petite fille de 4 ans et demi, elle est instruite en famille.
D'accord.
Elle va pas à l'école.
Je savais pas.
Elle est instruite en famille et en fait, par rapport à l'acquisition ou développement de l'écriture et de la lecture, on s'est dit, tiens, c'est marrant en fait, parce qu'elle était très intéressée de vouloir écrire sur nos écrans, sur notre ordinateur, sur notre téléphone. En fait, avec ma compagne, on s'est dit, mais en fait, quand est-ce qu'elle nous voit lire un livre ? Bien sûr qu'on est des gros lecteurs, mais en fait, on prenait pas le temps de lui dire, attends, je vais lire. Quand est-ce qu'elle nous voit écrire de manière manuscrite ? Et quand est-ce que dans notre société aujourd'hui, alors bien sûr, la société évolue, et que c'est très bien qu'on ait des écrans pour s'écrire des messages à longue distance, c'est très très bien, il y a zéro débat là-dessus. Mais quand on exige des enfants qu'ils apprennent quelque chose dont ils ne perçoivent pas le besoin dans leur environnement, ça ne fait pas sens.
Non, mais bien sûr, c'est complètement clair. Alors, 100% aligné avec ça. Juste une chose, parce que tu disais, c'est souvent les mères qui mettent la pression sur les activités, etc.
Qui se mettent, pardon, la pression
sur les activités, etc. Nous, on constate que les pères, d'abord, le font aussi, mais génèrent souvent une pression sur le sport, avec les fils.
Ouais.
On parle souvent beaucoup de la relation de la mère avec les enfants, mais la relation du père avec les fils est quelque chose d'extrêmement puissant et parfois qui peut faire des dégâts sur notamment la relation au sport. On le voit d'ailleurs autour du foot beaucoup, mais c'est vrai dans d'autres sports. Et globalement, un papa qui voit son fils de 18 mois, 2 ans, qui ne sait pas taper dans une balle, alors que lui, on lui a dit qu'il avait toujours été doué en sport, se met dans sa tête, mon fils n'est pas bon en sport. Et c'est quelque chose d'extrêmement complexe sur l'évolution de l'enfant, parce que sur sa confiance en soi, c'est très dur. Et ce que l'on voit en crèche, nous, c'est que, en fait, pour taper dans un ballon, ça peut se passer pendant un espace-temps qui est large. Si ça se trouve, la première fois que tu taperas habilement dans un ballon, tu auras 3 ans, 4 ans, et c'est pas grave. Ce qu'il faut, en revanche, c'est accompagner le développement de cette motricité au juste moment. Et donc, arriver à dire à un parent, ton enfant n'a pas besoin d'être suractif, ou, bah, écoute, ne le mets pas dans une case trop vite, c'est aussi compliqué, parce que l'injonction de la société, c'est ton enfant doit être productif. Il doit être fort vite, etc. On le compare à son cousin, à son frère, etc. Et en fait, on se rend bien compte à 20 ans que celui qui était nul en foot à 5 ans, bah, il peut être devenu bon. Peut-être qu'il est encore moyen en foot, mais qu'en revanche, il est très bon, je sais pas moi, en basket ou dans un sport de raquette, parce que c'est plus adapté à lui. Et sur ces sujets-là, on ne se rend pas compte, notamment dans les milieux populaires, de la pression qu'il y a au succès à travers le sport, le rap, tout ce genre de choses, où on veut absolument faire tous ces enfants un petit génie très tôt, et dans les milieux sociaux privilégiés, de la pression sociale d'avoir un enfant complet. Il doit être tennisman, musicien, ouais. et littéraire. Bah, compliqué, quoi. Donc, il faut aussi un petit peu se lâcher la pression. Quand on dit que le niveau scolaire baisse, c'est aussi parce que les enfants du XXIe siècle, on veut qu'ils sachent tout faire. Ils n'ont plus de bande passante pour la lecture ou ce genre de choses. Donc parfois, il faut revenir aux fondamentaux, non pas de manière basico-basique et un peu conservatrice, mais il faut revenir aux fondamentaux en donnant un peu plus de temps au temps pour se compléter sur toutes ces activités. On n'a pas besoin d'être bon dans 3 sports et 2 instruments de musique, plus la lecture et les maths à 8 ans.
Oui, et puis je me rappelle très bien, c'est un petit peu ce qui motive notre décision d'instruction en famille, mais du directeur d'éducation de l'ONU qui était au congrès et qui disait clairement, avec qui on avait une discussion, il disait clairement, mais en fait, avant 7-8 ans, et c'est ce que la recherche nous montre en neurosciences, avant 7-8 ans, les savoirs transmis comme ça de manière très verticale par ailleurs, ça n'a aucune chance de donner quelque chose de pertinent et d'efficace. Il nous reste quelques minutes à peine. Si tu devais, toi, Xavier, le père, l'homme, et le PDG de Babylook, on a bien compris que c'était quand même, il y avait quelque chose de très profond en toi, qui t'ancre dans cette mission qui est la tienne, que ce soit dans ta vie ou en entreprise. Si tu avais un message comme ça à passer aux parents qui nous écoutent en quelques mots.
La première chose, c'est donnez-vous du temps en tant que parents et avec vos enfants. Si vous êtes très occupé parce que vous avez un gros job, prenez vos vacances et vivez en vacances en famille. Moi, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas intrinsèquement en moi, qui m'a beaucoup été transmis par la culture de la famille de ma femme. C'est éviter en vacances d'être toujours avec des amis, toujours avec la famille, élargie. Soyez vous avec votre enfant ou vos enfants. Et là, il se dira en grandissant, mais papa et maman ou papa ou maman m'ont donné du temps à moi. Donc ça, je pense que c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de faire confiance aux professionnels de l'éducation, en crèche, à l'école. Combien de fois j'entends des parents dans mon entourage m'expliquer à quel point les profs sont nuls, les profs sont à côté de la plaque, ils comprennent pas, parce que eux ont des injonctions fortes et ont leur idée, etc. Non, les professionnels de l'éducation en France, souvent mal reconnus, sont des gens qui ont, dans 95% des cas, un diagnostic pertinent. Et en revanche, si on n'est pas confort avec la méthode éducative dans laquelle est élevé son enfant, il faut en parler au prof. Et il faut parfois être capable de se dire, je vais chercher une solution qui me correspond mieux. Nous, on a eu la chance de pouvoir le faire dans le cadre de l'éducation nationale. Et ça s'est très, très bien passé. Et je crois que les profs et les professionnels de crèche sont très à l'écoute. Donc vraiment, ce deuxième conseil, faire confiance aux professionnels de l'éducation. Et enfin, le troisième, c'est se documenter. Et je pense que l'État doit faire plus pour aller donner de la culture. Mais on n'a pas la science infuse. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant, en écoutant, en partageant avec des gens qui m'ont ouvert l'esprit sur ce que je ne savais pas. Et à l'intérieur de son boulot, quand on est décideur, ce qui est mon cas, embaucher des gens meilleurs que soi. Et quand on travaille dans l'éducation, il faut embaucher des gens qui ont plus de compétences que soi pour pouvoir nous faire progresser. C'est vrai des neurosciences, c'est vrai de la motricité, c'est vrai aussi de ce qu'on appelle le multiculturalisme, qui est souvent à mauvais escient critiqué. Mais aujourd'hui, on est dans un pays où 25% des enfants sont issus de milieux multiculturels, et pas simplement quand ils viennent de l'éducation, de l'immigration, pardon. Et en fait, c'est un vrai sujet de comprendre le multiculturalisme. C'est pas simple pour un petit être humain d'avoir deux différences culturelles, de jongler avec. Donc voilà, sur ces trois sujets-là, déjà, si on y arrive, on avance.
Merci beaucoup, Xavier.
De rien.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.